EMS les podcasts, bienvenue, bonjour. Bernard Beltante et Philippe Jamet portent un regard amoureux sur les grandes écoles. C'est ce regard fondé sur une très bonne connaissance du milieu qui les a poussés à écrire le dictionnaire inattendu des grandes écoles, paru aux éditions EMS en février 2022. Avec eux, nous entrons dans ce monde des grandes écoles sur lequel nous sommes un certain nombre à avoir des idées reçues. Et justement, j'ai décidé aujourd'hui de leur poser les questions qui fâchent. Bernard Beltante, Philippe Jamet, bonjour, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Lors de notre premier rendez-vous, vous nous avez expliqué l'intérêt des grandes écoles et c'est vrai que vous avez été convaincant. Mais cette fois, j'ai envie de vous titiller un peu. Alors dites-moi, les grandes écoles, en réalité, ce sont juste des endroits où l'on paie très cher pour se faire un carnet d'adresses, non ?
Alors d'abord, on ne paye pas toujours très cher. Deuxièmement, là où on paye, ça vaut le prix. Et on connaît, Bernard et moi, suffisamment les grandes écoles pour avoir un regard amoureux. On aime beaucoup les grandes écoles. On est tombé dedans quand on était petit. Mais on n'est pas complaisant. Donc, c'est aussi pour leur permettre de se réapproprier leur véritable nature qu'on a commis aussi ce petit livre. Les premiers lecteurs de ce livre, ça devrait être les patrons de grandes écoles et les gens qui y travaillent. Mmh. Pour qu'ils soient à la fois remis en confiance dans ce modèle et puis qu'ils trouvent des raisons d'entreprise, d'entrepreneuriat, de fierté, qui les promeuvent dans ce qu'elles ont d'excellent.
Et pour vous, Bernard ?
C'est presque un peu péjoratif de parler de carnet d'adresses alors qu'une grande école, et les élèves des grandes écoles le reconnaissent, il y a une volonté d'être dans une sorte de groupe, de communauté, j'oserais même dire de temps en temps peut-être de famille. On parle beaucoup des associations d'anciens élèves, des associations de diplômés. C'est une force des grandes écoles. Ça a été créé au début des grandes écoles, et c'était à l'époque généralement des caisses d'entraide pour aider les diplômés ou les élèves qui étaient en difficulté. Et aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Alors le risque, c'est bien évidemment que ça soit dévoyé, qu'il y ait une logique de nomenclatura, que la famille devienne un clan et qu'il y ait des passe-droits.
Depuis plus d'un siècle, la mission de notre établissement est de former les élites du pays. Non mais ça va, pète un coup, monsieur Lanvin, fume un joint.
Elliot, tu veux pas retourner dans le public ?
T'es fou quoi ? Si c'est la crème de la crème. Moi, je veux rester là, je te le dis.
Excuse-moi, Elliot, hein, mais face à scolarité dans le public, ça n'a jamais empêché personne de réussir dans la vie. Regarde ton père et moi.
Ouais.
Mais sérieux, vous n'avez pas marre de votre délire bobo-gauchiste à deux balles, là ?
Quoi ?
C'était un extrait tiré de la série « Fais pas ci, fais pas ça », diffusée sur France 2 pour illustrer la question qui suit. Les grandes écoles ont la réputation de produire des élites. N'est-ce pas finalement une façon de faire la promotion de l'élitisme que votre livre, le dictionnaire inattendu des grandes écoles, Philippe et Bernard ?
L'élitisme, c'est comme la mode, c'est comme la confection. Si vous vous contentez de voir les grandes maisons de couture, personne ne peut s'habiller, personne ne peut se les offrir. De la même manière, si vous vous contentez de voir dans les grandes écoles les 4-5 qui sont sur le haut du panier, bon, vous voyez quelque chose qui brille, qui reluit, qui est effectivement très élitiste, mais ce n'est pas pour autant que tout le système qu'il y a derrière, vous le comprenez. Les grandes écoles, c'est exactement pareil. 90-95% des écoles sont des écoles vraiment abordables dans tous les sens du terme. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on déplore, c'est que tout le discours qui est développé autour des grandes écoles, et ça se voit bien dans les articles de la presse où systématiquement, pour illustrer un article sur les grandes écoles, on prend la photo du défilé du 14 juillet de l'école polytechnique. Les écoles, c'est beaucoup plus que ça. C'est même surtout pas tout ça.
Je citerai une anecdote que vous retrouvez dans le livre. C'est un grand professeur de chimie, mais également grand chef d'entreprise, président de la Chambre de commerce de Lille, qui est Frédéric Kuhlmann, qui a laissé son nom, bien évidemment, dans l'industrie après. Et Frédéric Kuhlmann, recevant Napoléon III, lui dit « Nous avons des écoles pour former des contremaîtres, nous avons besoin d'écoles pour former des directeurs. » Et là, le mot est lâché, c'est-à-dire qu'il faut, dans le système de formation, des écoles professionnalisantes qui forment des directeurs, c'est-à-dire des gens qui soient capables d'appréhender la complexité, capable d'anticiper. Mais bien évidemment, un directeur, comme l'a dit Philippe, ce n'est pas automatiquement des gens qui vont diriger les entreprises du CAC 40.
Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir.
C'est à qui arrose le passage de l'eau.
Le mieux, c'est de faire des annales, franchement.
Il faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions. Hein.
La fac, ça va?
La phosphoglucomutase.
Non mais sérieux?
3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix, ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain.
Dans son film « Première année », Thomas Lilti nous fait sourire avec une population qu'il connaît bien, les étudiants en médecine. Alors vous, messieurs, dites-moi, les grandes écoles, si elles ne produisent pas de reptiles, n'ont-elles pas tendance à fabriquer des esprits un peu formatés? En tout cas, c'est ce qu'on pourrait craindre, non?
Alors la vocation des grandes écoles, c'est effectivement de former des esprits audacieux et disruptifs. Je pense que Gérald de Gaulle, à ce niveau-là, est quand même... elles y réussissent pas toujours. Il y a des gens qui sortent des grandes écoles, qui sont formatés, et puis qui restent comme ça jusqu'à la fin. Il suffit de regarder, je crois que c'est dit quelque part dans le bouquin, des rubriques nécrologiques de gens très âgés qui mettent leur année de promo et l'école comme si la seule chose qu'il y avait à retenir d'eux, c'est qu'ils étaient bons en maths à 20 ans. Quoi. Ça existe. Mais ce n'est pas la vocation des écoles. La vocation des écoles, c'est d'aller dans le dépassement, dans l'engagement, dans la remise en question, dans l'intelligence des situations, hein, on le redit beaucoup. C'est ça, par petites touches, vous voyez, qu'on s'efforce de dessiner.
Philippe Jamais, Bernard Beltante, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes auteur du dictionnaire inattendu des grandes écoles, disponible sur le site des éditions EMS et dans toutes les bonnes librairies également. Je vous propose, messieurs, un troisième rendez-vous pour feuilleter ensemble quelques pages de votre dictionnaire. Je vous dis donc à très vite et merci.
Au revoir. Merci, Harry.